Chapitre 2. Les longues stations que Victor faisait auprès d'elle étaient un ennui et une gêne pour Marichette. Celle de Paulin, au contraire, lui était une douce distraction, la seule de sa vie triste et morne. Depuis son voyage à Criquefleur, elle n'était plus sortie de la maison de son cousin. Où aurait-elle été? Chez Madame Moreau? Assurément, c'eût été un plaisir pour elle de se promener dans cette cour verte d'où l'on avait de si belles échappées de vue sur la mer à travers les branches des pommiers chargés de fruits. Et puis, chez Madame Moreau, elle eût joué librement avec Tite, elle eût pu l'embrasser, le caresser sans peur d'être surprise. Mais pour aller chez Madame Moreau, il fallait en demander la permission à son cousin et elle n'osait pas. Cela lui eût été un plaisir aussi d'aller sur la plage le dimanche à l'heure du bain, de voir les baigneurs, regarder les toilettes. Mais comment? Elle ne pouvait pas aller là toute seule et elle n'avait personne pour l'accompagner. Jamais elle n'était descendue jusqu'à la plage. Tout ce qu'elle avait vu de la mer, c'était ce qu'elle en apercevait au bout de la rue. Tout ce qu'elle en connaissait, c'était ses mugissements dans les nuits de mauvais temps, ou bien sa plainte monotone, les soirs où elle restait à sa fenêtre ouverte, à rêver aux étoiles. Jamais son cousin ne lui avait proposé de la prendre avec lui. Ne se promenant pas lui-même et sortant toujours pour ses affaires, il ne paraissait pas se douter qu'on pouvait avoir l'idée de se promener. De même, il ne paraissait pas se douter non plus qu'à table on pouvait causer pour causer. Quand il parlait, c'était pour une chose utile, une recommandation à propos d'un travail à faire, pour une observation à propos d'un travail fait. En dehors de cela, il n'ouvrait la bouche que pour manger, et il n'était pas rare que le repas s'achevât sans qu'il eussent dit un mot. Sans ses conversations avec Paulin, elle eût pu croire que dans cette vaste maison déserte, elle était dans un château enchanté, condamnée au silence éternel et à n'entendre d'autres bruits que ceux de ses pas qui retentissaient mélancoliquement dans ses vestibules et cet escalier sonore. Divine elle-même ne parlait point, un mot seulement de temps en temps, en cachette, craintivement comme si c'était une faute, et encore fallait-il que ce mot lui fût arraché par quelque circonstance extraordinaire. Un dimanche soir qu'elles étaient seules toutes les deux, Marichette, après le dîner, ne sachant que faire et n'ayant pas de livre à lire, car il n'y avait pas d'autre livre qu'un code dans la maison, avait été s'asseoir à une fenêtre ouverte et elle était restée là à regarder les nuages que poussait le vent d'ouest courir sur le ciel éclairé par la pleine lune. Le silence s'était fait dans cette partie du village, troublé seulement de temps en temps par les cris et les chants qui s'élevaient quelquefois des cabarets du port, mais qui se perdaient aussitôt dans le grondement continu de la marée montante. Ce bruit de la mer, comme ce défilé des nuages, l'avait tout d'abord distraite, puis, peu à peu, il lui avait mis au cœur un sentiment de vague mélancolie qui l'avait envahie tout entière en la reportant dans le passé. Ce n'était pas la première fois que, par une soirée de pleine lune d'automne, elle voyait les nuages venir à l'assaut des terres et qu'elle entendait le hurlement de la mer. Deux ans auparavant, à Biarritz, avec son père, de la chambre qu'ils occupaient sur l'esplanade du Proust, elle avait vu ainsi les nuages s'élancer des profondeurs de l'océan et passer en escadrons serrés sur la face de la lune, de même qu'elle avait entendu la mer frapper dans les blocs chaotiques de la Chine à rouge des coups sourds qui faisaient trembler tout le promontoire. Mais alors cela l'amusait. Ces envolées de nuages la prenaient sur leurs ailes. Ses coups de mer étaient une musique qui la berçait. C'est qu'à ce moment, elle était heureuse, elle avait son père, sa mère. On l'aimait, la vie ouvrait devant elle ses portes roses, et c'était par le sourire qu'elle répondait au sourire qui lui venait de tous les côtés. Maintenant, elle n'avait plus ni père, ni mère, ni personne qui l'aimât, et dans tout ce qui l'entourait, il n'y avait plus pour elle que des sujets de tristesse. Comment eût-elle pu refouler ses larmes en s'enfonçant dans cette comparaison? Elle les avait laissées couler et c'était au moment même où un sanglot s'échappait de sa gorge que Divine, en montant l'escalier sans lumière et en chaussant pour aller se coucher, l'avait surprise. « Vous avez du chagrin, pas vrai, mademoiselle ?»« Oui, je pense à maman. » Ça doit être dur de perdre ses parents et de pleurer ceux qui nous aimaient. Moi, je n'ai pas connu ça parce que je suis enfant de l'hospice. Je n'ai pas eu de parents, jamais personne ne m'a aimé, mais je sens ça tout de même, et quand je vous vois avec votre air triste, je vous assure que ça me fait deuil. Je ne dis rien parce que ce n'est pas mes affaires, mais vrai, ça me fait deuil. » Assurément, dans sa position, la sympathie de cette pauvre fille était bien faite pour la toucher, mais enfin, elle ne suffisait pas pour remplir ses journées si longues. Quand Divine avait dit « Ça me fait deuil de voir votre chagrin », elle avait tout dit, et si bien même qu'elle ne pensait pas à le répéter. À quoi bon? D'ailleurs, qu'eût ajouté cette répétition? Au contraire, la sympathie de Paulin, qui s'affirmait à chaque instant et de toutes les manières, était peu à peu devenue la préoccupation et la consolation de sa vie. « Quel bon garçon !» se disait-elle. Et rien que de penser qu'il y avait de braves gens au monde, cela lui faisait trouver la vie moins misérable. Le matin, c'était avec impatience qu'elle attendait qu'il arrivât. Et aussitôt qu'il entrait, c'était deux bonjours joyeux qui s'échangeaient. « Bonjour, mademoiselle !»« Bonjour, monsieur Paulin !»« Et p'tit !»« Il va bien !» Si Belloc était dans le bureau, ils ne se parlaient point, mais à la dérobée, ils se regardaient rapidement. Elle levait la tête, il abaissait la sienne, et ce signe suffisait, ils s'étaient compris. Belloc pouvait aller et venir, s'installer dans le bureau, les accabler de recommandations, les bousculer, peu importait, pourvu qu'il ne fermât pas la porte de communication. Souvent, il arrivait que Belloc recevait des visites dans lesquelles il devait se dire des paroles qu'il ne voulait pas que sa cousine entendît, car pour lui, tout était mystérieux, même les choses les plus simples. Ce qui n'était pas dangereux aujourd'hui pouvait le devenir demain ou plus tard. Alors il lui faisait un signe et elle sortait, mais toujours par la porte de gauche et jamais par la porte de droite, de façon à l'attendre dans le bureau de Paulin et non dans celui de Victor. C'était ces bons instants que cela. Il n'y avait pas à s'observer, pas à se cacher. Il n'y avait pas à craindre d'être surpris. La seule précaution qu'ils eussent à prendre, c'était de parler bas, car si Belloc permettait que Marichette perdît son temps, il n'aurait pas toléré qu'elle fît perdre celui de son commis. D'ailleurs, elle ne le lui faisait pas toujours perdre, et quand il dessinait, elle était la première à lui demander de continuer. « Je vais vous regarder, » disait-elle. Et, se plaçant derrière lui, elle s'amusait à suivre son crayon quand il cherchait une distribution, ou son pinceau quand il lavait une façade à l'aquarelle, ce qu'il réussissait joliment avec un sentiment très vif de la couleur et du pittoresque. « Comme vous avez du talent !» disait-elle avec une admiration naïve. « J'en aurai peut-être un jour quand j'aurai sérieusement travaillé, mais ici, le temps et les moyens me manquent. Où trouver des maîtres à Saint-Maclou? Le peu que je sais, je l'ai appris par hasard en restant derrière un peintre. Il avait loué une cabane sur la grève et il vivait là-dedans du matin au soir. Il faisait régulièrement ses 3 aquarelles par jour, une vue du matin, une du midi, une du couchant. Il m'a permis de le regarder peindre et j'en ai plus appris en quelques heures quand je passais par là qu'en des années à étudier tout seul. » Alors il expliquait ses espérances et ses projets. « C'est pour amasser un petit capital que je suis entré chez M. Belloc. Quand j'aurai 4 000 francs, nous irons à Paris, ma mère et moi, et je suivrai les cours de l'école des Beaux-Arts. Il me faut encore 2 ans, car nous ne pouvons mettre que 1 000 francs de côté par an, et encore maintenant, comme je gagne moins, nous économiserons moins. » « Et c'est moi qui suis cause de cela en vous enlevant les copies que vous faisiez chez vous. Ce n'est pas votre faute, et puis d'ailleurs, cela est un bien pour moi. Je puis maintenant le soir travailler mes mathématiques, ce qui est mon côté faible et ce qui m'aurait peut-être empêché d'entrer à l'école. Une fois à Paris, nous vivrons avec nos 4 000 francs et avec ce que je gagnerai de ci, de là chez les entrepreneurs. » J'aurais été seul, que je serais à Paris depuis 2 ou 3 ans, parce que tout seul on s'en tire toujours, et si l'on a de la misère, peu importe. Mais je ne pouvais pas exposer maman à la misère, et je ne pouvais pas non plus l'abandonner à Saint-Maclou. C'est une règle admise par bien des gens qu'on doit tout sacrifier pour faire sa vie et assurer son avenir, même ses affections, même son bonheur et celui des siens. Moi, je ne sens pas comme cela. Ma mère a tout enduré pour moi, elle a travaillé, elle a pâti, je trouve que j'ai des devoirs envers elle. Et pourtant, j'ai mon ambition. Si j'arrive, j'arriverai plus tard que d'autres, mais nous arriverons ensemble, et ça, c'est quelque chose. J'aurais été si heureuse de pouvoir rendre un peu à ma mère de ce qu'elle a fait pour moi. Il ne lui répondait point, car il ne savait pas de paroles qui pussent être une consolation pour elle, mais il la regardait et leur cœur s'entendait. Ces jours-là, quand elle se retrouvait seule dans le bureau, penchée sur son papier et la plume à la main, ou bien quand elle était dans sa chambre, ne dormant point, elle se trouvait moins seule, moins abandonnée. Le monde lui paraissait moins vide. Elle revenait à ce qu'il lui avait dit, et elle, qui n'avait pas d'avenir, vivait de celui de Paulin. Comme il serait heureux !